Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si Accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. C'est RMC. Bon dimanche aussi. Vous êtes au cœur de ce week-end des experts. Comme chaque week-end, vous le savez, les meilleurs experts de France m'accompagnent. Le samedi, c'est le jardin et la maison. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Il répondra à toutes vos questions auto, bien sûr. Avec l'essai de la semaine, ce sera la nouvelle Smart électrique qui est très, très, très attendue. Jean-Luc l'a testé, il nous dira ce qu'il en pense. On parlera aussi tout à l'heure de prévention routière. Jean-Luc, donc, à partir de 8h. Mais d'ici là, bien entendu, votre rendez-vous animaux avec notre vétérinaire. Laetitia Barlerin. Tout à l'heure, on va découvrir une piscine qui a été faite à la fois pour nous, les humains, mais aussi pour les chiens, donc on peut se baigner avec son animal de compagnie. On reviendra sur...
C'est unique quand même, parce que d'habitude, c'est soit l'un, soit l'autre.
C'est génial. Non, franchement, c'est très bien. On reviendra aussi sur le record de Rémi Gaillard, qui est resté enfermé dans une cage pour animaux pour...
Pendant 5 jours.
Voilà, justement, aider les animaux qui sont enfermés. Et puis, on découvrira ce diplôme inédit pour défendre les animaux. Et Laetitia, on va commencer par la relation un peu particulière qu'entretiennent des enfants et les animaux.
Voilà, et nous sommes avec Sandy Beller, qui est psychologue clinicienne et psychothérapeute, qui est de l'association de médiation animale Résilience, et qui vient de diriger le dernier numéro de la revue Spirale sur le thème les tout-petits et les animaux. Et c'est justement notre thème. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, il y a toujours un moment où l'enfant demande à ses parents, pour Noël, un animal. Voilà, un chat, un chien ou autre. Alors, comment l'expliquer? Et est-ce une question d'âge? Est-ce qu'il y a un âge où l'enfant se dit, tiens, je veux un animal?
Alors oui, je pense effectivement qu'il y a une question d'âge. Et l'animal est investi de façon différente, en effet, en fonction de cela. Cependant, moi, ce que j'observe et ce que je note dans le quotidien, c'est qu'il reste, quel que soit l'âge, quand même un support affectif qui indéniable, en fait. Voilà, c'est ça. Vers qui les enfants et les adolescents se tournent, en fait.
Donc, il n'y a pas d'âge, en fin de compte.
Il y a plus un âge, quand même, où les enfants sont en demande. Je dirais que c'est... À partir de 7-8 ans, les enfants sont très en demande d'avoir un lapin ou un cobaye ou un chien ou un chat. Après, il faut effectivement bien identifier la demande de l'enfant.
Oui, parce que...
Voilà, c'est ça. D'où vient cette demande? Est-ce parce qu'il y a un petit copain à l'école qui a eu un animal? Est-ce qu'il y a une envie vraiment d'avoir cet animal? Voilà, c'est important de pouvoir identifier la demande de l'enfant, en fait.
Comment l'enfant perçoit-il l'animal? Est-ce que c'est... Parce que souvent on dit faire attention, l'enfant il va prendre l'animal comme une peluche. Est-ce qu'il fait vraiment la différence?
Alors oui, il faut faire attention. C'est vrai que effectivement, la perception de l'animal pour l'enfant, là encore, ça diffère en fonction de l'âge. Par exemple, à partir tout petit, hein, déjà à 9 mois, c'est vrai qu'on va voir le bébé se mettre à imiter l'animal, il s'identifie à lui. Et puis plus tard, il y aura une symbiose en fait un peu avec l'animal. Mais c'est aussi à un âge jusqu'à 3 ans où le tout petit quand même a des pulsions, vous savez, les pulsions de mordre, les pulsions d'attraper. Et il faut faire très attention à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des adultes autour pour encadrer cette rencontre entre l'enfant et l'animal. Parce que l'enfant a des pulsions de ce type, donc c'est important de pouvoir être vigilant à ça.
Et pourquoi on a l'impression que la communication entre l'homme et, entre l'enfant pardon et l'animal se met en place naturellement? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe entre eux, mais naturel.
Oui, alors c'est vrai que les scientifiques montrent que pour des raisons déjà génétiques et ontogénétiques, les jeunes enfants vont montrer une appétence naturelle à l'égard des animaux, en fait, hein, ça s'illustre vers une tendance spontanée, en fait. Effectivement, on voit l'enfant qui a des élans à l'interaction vers l'animal, mais aussi parce que, je dirais, le rapprochement entre le tout petit et l'animal se fait parce que l'un et l'autre n'ont pas le langage humain, en fait. Donc, c'est ce qui les rapproche.
C'est-à-dire qu'ils communiquent bien avec l'animal parce que l'animal ne parle pas?
Voilà, la communication est d'abord non verbale en fait, et surtout la communication n'est pas empreinte de, vous savez, de toute empreinte de toutes ces difficultés, toutes ces complexités de la relation humaine et de la communication humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de jugement.
Il n'y a pas de transfert non plus.
Voilà, exactement. Et du coup, la relation est beaucoup plus simple avec un animal qu'avec un humain.
Qu'apporte le chien, le chat à l'enfant qui grandit?
Alors. Plusieurs choses. D'abord, c'est déjà un être vivant qui est singulier parce que il a son monde propre à lui, donc je dirais sa sensibilité, ses émotions. Il va être autonome, donc il est autonome, donc du coup il va confronter l'enfant aussi à la réalité. C'est-à-dire que l'animal, s'il y a une situation qui est source de déplaisir ou d'inconfort, peut s'éloigner et peut montrer à l'enfant qu'il est en désaccord avec ce qui se passe. Il va inviter l'enfant à la relation, mais aussi, en fait, tout ce qui est tabou chez l'homme est visible chez l'animal. Donc, que ce soit la sexualité, la naissance, la maladie, la mort, donc toutes ces questions-là peuvent être abordées aussi avec l'animal.
Mmh.
Voilà, et l'animal aussi responsabilise l'enfant, parce que dans une famille, il est évident qu'un enfant ne peut pas s'occuper seul d'un animal et que les parents doivent être présents. Mais voilà, c'est une façon de s'occuper d'un autre, en fait. Hein. Il s'investit dans la nourriture, dans la compagnie chez le vétérinaire, et ça, c'est important.
Et souvent, il dit aussi, c'est mon chien, c'est mon chat. Cette possession, c'est important pour l'enfant?
Oui, tout à fait, parce que ça vient vraiment montrer que là, il s'occupe de lui, c'est-à-dire qu'il est vraiment la personne qui prend soin de lui. Et la position est inversée, puisque finalement, un enfant, les parents sont là pour prendre soin de lui. Là, la position est inversée, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'enfant peut aussi développer son empathie et se responsabilise dans sa relation à l'animal.
Et puis surtout, c'est un formidable confident et qui dit oui à tout et qui juge pas l'enfant.
Exactement, c'est ça. C'est qu'il rassure en fait par sa disponibilité, par son écoute apparente. Il va rassurer l'enfant. Il est vraiment le confident et l'enfant vient déposer ses soucis, ses déceptions, ses chagrins. En fait, il génère une sécurité affective chez l'enfant.
Et alors, est-ce qu'il faut répondre à sa demande? C'est-à-dire, quand un enfant demande un chien ou un chat d'ailleurs, est-ce que, il faut le faire ou il faut lui vraiment prendre un, ou est-ce qu'il faut vraiment se poser les questions avant?
Oui, alors comme on le disait précédemment, effectivement, il faut identifier la demande de l'enfant.
Ça peut être une passade, hein, ça peut être parce que le copain en a un.
Exactement, ça peut être ça. Donc c'est important d'en parler en famille, de prendre le temps d'y réfléchir, parce que comme on le disait, l'enfant ne pourra pas s'occuper seul de l'animal. Donc il faut que les parents aussi prennent en compte le fait que un animal, ça a des avantages, mais ça a aussi des exigences, des inconvénients.
Mmh.
Et c'est important que cette décision soit mûrement réfléchie. Parce qu'un animal, c'est pas un cadeau comme les autres.
C'est
un être sensible et vivant, et c'est essentiel.
Important de rappeler tout cela, bien sûr, à l'approche des fêtes de fin d'année. Merci beaucoup, Sandy.
Merci. Et alors, je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psychothérapeute, et vous êtes dans l'association de médiation animale avec les enfants, Résilie Enfance, et nous allons mettre le lien sur la page Facebook. C'est intéressant de savoir que l'animal aussi intervient lors de médiation animale auprès de l'enfant.
Laetitia, 7h19. Nous allons maintenant découvrir dans une minute un diplôme en droit animalier.
C'est inédit en France.
C'est inédit, c'est parrainé par la Fondation 30 millions d'amis. On va en parler dans un instant. Et puis je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler, poser vos questions, réagir. 3216 ou animo@rmc.fr. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
Ça 7h21, le week-end des experts et bien sûr les animaux. Jusqu'à 8h avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui attend vos questions, n'hésitez pas. Dans quelques instants, nous retrouverons la météo et les infos de 7h30. Laetitia, on va maintenant découvrir un diplôme en droit animalier.
Voilà, un diplôme inédit en France et parrainé par la Fondation 30 millions d'amis. Ouais. Et nous sommes avec Lucille Boisseau-Sauvinski qui est maître de conférence en droit privé à l'Université de Limoges, cette université qui propose ce diplôme. Lucille, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, c'est la première rentrée là pour ce diplôme hein, en septembre. Des étudiants suivent le premier diplôme universitaire français en droit animalier, ce qui veut dire que quand même le droit des animaux n'était pas enseigné chez nous.
Alors jusqu'à présent, le droit des animaux n'était pas enseigné dans le cadre d'un diplôme. Il n'y avait pas d'enseignement dans le cursus classique de la licence en droit, par exemple, ni en master. Et il y avait il n'y a qu'un master en droit de l'environnement à Strasbourg qui proposait un enseignement en droit animalier de quelques heures. Et sinon, il y avait un autre master qui a ouvert à la rentrée de septembre 2015, qui était en éthique et société. Et dans ce master éthique et société, il y avait une option éthique animale, droit animalier. Mais ce n'était qu'une option d'un enseignement beaucoup plus général. Mmh. Là, la particularité, et c'est ça l'innovation, on va dire, c'est que c'est un vrai diplôme qui est consacré uniquement au droit animalier. Et donc, avec un enseignement spécialisé de 54 heures, ce qui fait quand même un programme assez dense.
Alors, aux États-Unis, ça fait quand même plus de 20 ans qu'enseigner le droit animalier dans les universités. Qu'est-ce qui a décidé sa création en France? Est-ce qu'il y a eu une évolution?
Alors oui, il y a eu une évolution assez récente avec une loi du 16 février 2015 qui a reconnu le statut d'être vivant et sensible aux animaux dans le code civil. Alors c'était une petite révolution parce que on savait déjà que les animaux étaient des êtres vivants et sensibles, c'était déjà reconnu dans le code rural, mais c'est vrai que le code civil a un poids très important puisque c'était le premier code français, c'est le code, on va dire, la constitution civile des Français, certains disent, et donc le fait de le reconnaître dans le code civil, c'est aussi une évolution d'un changement des mentalités des juristes sur cette question. Et donc, on voyait que jusqu'à présent, par exemple, la Cour de cassation était très réticente à admettre des règles dérogatoires au droit commun pour les animaux et que, rien que depuis l'adoption de cet article, on a déjà eu un arrêt où la Cour a affirmé haut et fort que maintenant que les animaux sont des êtres vivants et sensibles, doués de l'affection de leur maître, on ne peut pas les traiter comme n'importe quel autre bien. Et donc, on va admettre, du coup, des règles dérogatoires au droit commun, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc
ça veut dire quoi?
Ça veut dire en pleine évolution, oui.
Que les juges sont plus sensibles à la cause animale aujourd'hui?
Alors, plus sensibles, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont davantage de moyens juridiques d'en tenir compte, notamment avec cette reconnaissance de la qualité d'être vivant et sensible des animaux. Mmh. Et alors, à la fois pour les animaux domestiques apprivoisés, et c'est vrai qu'on voit aussi que c'est en train d'évoluer un petit peu dans tous les domaines. Par exemple, une loi de cet été, du mois d'août, sur la biodiversité, vient de également individualiser l'animal en droit de l'environnement et lui reconnaître aussi une certaine sensibilité, ce qui est très nouveau, puisque jusqu'à présent, le droit de l'environnement ne reconnaissait absolument pas de sensibilité aux animaux et ne les traitait que de manière collective en tant qu'espèce, faune, mais pas en tant qu'individu. Donc voilà, donc il y a une évolution des mentalités qui est en train de se faire et c'est vrai que le droit, on va dire qu'avec la reconnaissance dans le code civil de ce nouveau statut, on voit qu'on a ouvert plein de portes et qu'on va pouvoir vraiment bâtir quelque chose de nouveau. Alors non pas qu'il n'existait rien avant, mais c'est vrai qu'avant ça existait de manière très parcellaire et souvent ça venait du droit européen. Et là il y a peut-être un élan français supplémentaire.
Oui, parce que est-ce qu'on est, on est les seuls en Europe à proposer ce diplôme?
Alors en Europe, il y a un diplôme, un master qui s'appelle Derecho Animal y Sociedad, qui est en Espagne.
Oui.
Et c'était le seul diplôme qui existait. C'était un master espagnol. Et après, il en est qui est à Barcelone. Et après, il existe quand même des unités d'enseignement. Il me semble au Royaume-Uni, il existe également quelques unités d'enseignement, comme ça peut se faire un peu aux États-Unis. Bon, c'est vrai qu'après, dans les pays anglo-saxons, déjà, on n'est pas sur les mêmes systèmes juridiques qui sont sur des systèmes juridiques de common law où c'est beaucoup plus souple et ces questions-là sont beaucoup plus étudiées. Mais dans les pays qu'on appelle de droit civil, de droit romain, comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc., l'Espagne était le seul à avoir vraiment un diplôme de ce type.
En tant qu'avocat, est-ce qu'il est difficile de défendre à la fois les animaux et l'humain?
Alors, difficile de défendre les animaux et l'humain, pas forcément, parce que souvent...
Est-ce que c'est compatible? Voilà.
Alors, ils ont des considérations communes, ils ont des points communs. Après, la difficulté, c'est que le droit animalier se trouve souvent en conflit avec des intérêts humains, des intérêts économiques, des intérêts, notamment des intérêts économiques. Et en fait, il y a la question des intérêts, il y a aussi la question des règles. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne les règles sont aussi souvent en conflit. Par exemple, certaines règles de bien-être animal exigent que dans les abattoirs, un animal blessé soit tué en premier, alors qu'au contraire, une règle sanitaire va plutôt conduire à ce qu'on l'abatte plutôt en dernier pour qu'il évite... Voilà. Donc on voit que les règles sont elles-mêmes souvent en conflit et que souvent, quand il y a un conflit, on privilégie la règle protectrice de l'humain plus que celle protectrice des animaux. Oui.
Lucille, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion dans un instant. Il est bientôt 7h30 sur RMC. La météo, les infos. Et on revient avec Laetitia Barlerin, bien évidemment. À tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, attention, attention. Il est temps de retrouver une petite question flash. Est-ce que vous êtes prête?
Je suis prête.
Mais c'est en moins de 2 minutes que vous vous engagez maintenant à répondre à la question d'Alex, qu'on a reçue sur animaux@rmc.fr. Laetitia, je cherche désespérément une poule araucana.
Ah oui.
Ah bah oui, ça vous dit quelque chose?
Oui, c'est une poule originaire du Chili. Et elle donne des œufs verts.
Des œufs verts?
Verts, mais verts, bleu-vert, hein, bleu.
D'accord.
Hein, non, ils sont très jolis,
mais
ces
œufs. Même le jaune et bleu-vert à l'intérieur?
Non, c'est que la coquille.
Dedans, c'est. Si on a du jaune, bleu-vert, là, je comprends pas.
Et ces œufs sont réputés pour avoir moins de cholestérol que les autres œufs.
Ah oui,
oui, oui, oui.
Tiens.
Et c'est vrai qu'elle commence à être à la mode en France, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ça son histoire?
Non,
c'est...
et en fait, Alex aimerait bien savoir s'il peut en trouver.
Alors, oui, hein, mais il n'y en a pas beaucoup en France, c'est vrai.
Ouais.
Parce qu'il y a une demande qui augmente. Et puis surtout, ce sont des poules qui ne sont pas très fertiles. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de queue.
C'est-à-dire, Laetitia, j'ai pas l'air de bien comprendre là, ce qui se passe.
Eh ben, comme elles ont pas de queue, le mâle a du mal à se maintenir en équilibre sur la poule quand ils font crac-crac. Mais c'est vrai.
Et alors, comment ils font?
Ben, ils le font, mais...
Un peu comment, quoi.
Voilà, donc...
C'est pas très structuré, vous voulez dire.
Voilà, donc il y en a très peu en France, mais vous pouvez en trouver. Vous allez dans des expositions de volailles, pourquoi pas. Ou alors, vous allez demander à des clubs d'éleveurs amateurs de poules d'ornement, ce qu'on appelle les poules d'ornement. Vous savez, toutes ces races de poules, poules naines, etc. Et il y a des clubs d'éleveurs amateurs qui en vendent.
Ah,
mais
oui.
Comme je vous dis, voilà, il y a une histoire de queue, quoi.
Oui,
voilà,
écoutez,
c'est une histoire de queue.
C'est clair. J'aurais préféré que ce soit une histoire de plume, mais bon, finalement, les deux ne sont pas si éloignés que ça. 32-16, hein, pour chute, coucher, la poule. 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite.
RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
8h-25, bienvenue à vous toutes et à vous tous. On salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur RMC. C'est le week-end des experts et c'est les animaux. Encore une demi-heure à passer avec Laetitia Barlerin et puis après on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Avec entre autres le test, l'essai très attendu de la nouvelle Smart électrique. Laetitia, d'ici là, bien sûr, on va s'intéresser à toute l'actualité, on va dire, animalière de cette semaine. Mais dans l'immédiat, eh bien, on s'intéresse à ce diplôme du droit animalier qui, en fait, a été initié par la Fondation 30 millions d'amis.
Voilà, et nous sommes avec Lucille Boisseau-Sauvinski, qui est maître de conférence à l'université de Limoges. Lucille, on vient donc de parler de ce diplôme. Alors, d'abord, il y a eu la première promotion là cette année. Qui sont les étudiants qui suivent ce cursus? Est-ce que ce sont des avocats? Est-ce que ce sont des militants de la cause animale?
Alors c'est à la fois les deux. On a un petit peu de public. On a un public de juristes en effet qui s'intéresse également aux animaux, mais en tant que juriste, c'est le droit qui est leur base pour en traiter. Donc là, ce sont des magistrats, des avocats et également des étudiants en droit. Et on a également un second public, on va dire, qui est un public plutôt de personnes qui sont bénévoles ou qui travaillent pour des associations de protection animale, qui eux sont plus des gens qui connaissent les animaux et des gens de terrain et qui s'intéressent au droit justement pour être plus efficace sur le terrain. Donc en fait, on a un petit peu les deux publics et c'est vrai qu'on avait une promotion assez variée, composée à la fois donc d'avocats, de magistrats, d'étudiants en droit, mais également de gens plutôt qui avaient de tout autre métier, par exemple des attachés territoriaux, des enseignants dans le secondaire, en philosophie ou en sciences naturelles, etc. Et du coup, c'était assez intéressant justement ce mélange, puisque ça amenait une diversité des questions, des profils, etc. Et donc une interaction plus importante.
Ce qui veut dire que bientôt, on aura des avocats spécialistes de la cause animale, un petit peu comme notre avocat Xavier Baquet quand même.
Oui, ben voilà, c'est bien. Mais c'est sûr qu'il y a déjà un certain nombre d'avocats qui sont souvent sollicités par les associations de protection animale et qui, en tant que tels, du coup, sont déjà spécialisés dans ces questions-là. Mais avec le diplôme universitaire en droit animalier, l'intérêt, voilà, c'est de former d'autres avocats à bien connaître ces questions et également d'avoir une meilleure une meilleure vision du droit animalier, parce que c'est vrai que quand on l'apprend sur le terrain, forcément, on apprend des petits domaines du droit animalier, ce qui nous intéresse. Donc souvent, on connaît très bien les règles de droit pénal, par exemple, qui viennent protéger les animaux contre les mauvais traitements ou les actes de cruauté. L'intérêt du DU, c'est aussi d'essayer d'avoir une vision globale du droit animalier et d'aller voir en fait les règles qui sont disséminées un petit peu partout dans les différents codes.
Alors pour finir, vous venez de faire une proposition avec 9 autres universitaires spécialistes du droit animalier, une proposition de décret interdisant l'abattage des femelles gestantes. Ça c'est suite à des images d'une vidéo choc ou une caméra cachée qui dénonçait l'abattage de vaches gestantes. Alors est-ce que votre souhait aussi, vous en tant qu'universitaire spécialiste du droit animalier, c'est aussi de faire changer les lois?
Alors bien sûr, en tant qu'universitaire, on est enseignant-chercheur et dans nos recherches, l'intérêt, c'est d'essayer d'identifier ce qui ne va pas spécialement dans le droit et de faire des propositions pour y remédier. Donc ça, c'est un travail qu'on fait déjà habituellement. Ça fait déjà longtemps qu'on fait de la recherche en droit animalier à Limoges et notamment le professeur Jean-Pierre Marguénaud, qui est un des précurseurs du droit animalier, avait fondé une revue dès 2009, la revue semestrielle de droit animalier. Cette revue existe toujours et fonctionne très très bien d'ailleurs. Et donc en fait, l'idée, voilà, c'est de faire ce type de proposition. Et l'idée également, dans le DU, c'est aussi de permettre aux étudiants d'avoir aussi une vision un peu prospective du droit, c'est-à-dire chercher ce qui pourrait être amélioré, comment ça pourrait être amélioré, etc. Et d'ailleurs, l'une des épreuves du DU sera de faire une proposition de ce type. Alors nous, on a souhaité faire cette proposition parce que cette question de l'abattage de la gestante nous a beaucoup touchés. D'une part, parce qu'il y avait une proximité géographique, parce que ça a été révélé dans l'abattoir de Limoges, même si c'est pas le seul abattoir en France à pratiquer, que tous les abattoirs font à peu près la même chose. Mais pour autant, ça a été révélé à Limoges, donc ça nous a particulièrement touchés. Et étant spécialiste du droit animalier, sachant que c'était une question vraiment qui touchait au droit animalier, une lacune dans la législation, il nous semblait important de pouvoir être force de proposition et de pouvoir montrer que le droit animalier et le petit groupe universitaire spécialiste du droit animalier pouvaient faire des propositions sur cette question.
Merci beaucoup, Lucille.
Merci beaucoup.
Merci.
Alors, si vous êtes intéressé par ce DU de droit animalier qui est ouvert à tous, vous pouvez vous inscrire à l'Université de Limoges.
Voilà, il est 7h40, c'était RMC. Et après Limoges, on descend un petit peu plus dans le sud, Laetitia.
À Montpellier.
On va du côté de Montpellier, où s'est déroulé la semaine dernière quand même un week-end de folie. Hein. Rémi Gaillard, qui est la star des vidéos rigolotes sur Internet, s'est enfermé pendant plusieurs heures, rentrer dans le détail,
cinq jours,
vous rendez compte, 5 jours, dans une cage pour animaux.
Voilà, et nous sommes avec Annie Benezek, qui est directrice du refuge SPA de Montpellier. Bonjour Annie.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Rémi Gaillard s'est enfermé en disant qu'il n'en sortirait que le jour où tous les animaux du refuge, il y en avait 300 à l'époque, vendredi dernier, seraient adoptés, ou bien s'il récoltait 50 000 euros pour les animaux. Il est sorti de sa cage dans la nuit du lundi au mardi, est-ce qu'il a eu gain de cause?
Ah oui, on a explosé les compteurs, comme on dit.
C'est-à-dire?
Au niveau des adoptions, on a eu 150 adoptions depuis qu'il a entamé donc son challenge.
La moitié donc, de vos animaux, alors?
Voilà, la moitié de nos animaux, ce qui est incroyable. En plus, dans cette moitié-là, il y avait des chiens très âgés, des chats très âgés, un animal qui était là depuis 3 ans, ce qui est très rare chez nous. Donc voilà, c'était un animal qui était un petit peu particulier au niveau de la race. Et donc, c'est vrai que des animaux qui partent pas. Et là, c'est extraordinaire parce que justement, ça a permis que ces animaux partent dans une famille et soient libérés de leur cage, quoi. Donc ça, c'est super. Et puis bon, au niveau du challenge de la cagnotte, donc il avait dit 50 000 euros. Après, il est monté à 75. Après, il est monté à 150, à 100, 150. Et là, il a donc la cagnotte est actuellement à 200 000 euros, quoi. Donc
c'est 200 000 euros,
c'est incroyable.
En 5 jours, il a obtenu 200 000 euros pour le refuge. Ouais. Vous allez utiliser de quelle façon ces 200 000 euros?
Surtout, on va voir avec lui, mais bon, on voudrait effectivement améliorer les conditions. Donc, même si on a un refuge qui est très récent, dans le sud, on n'isole pas les box. Mais dans le sud, il fait quand même un peu froid la nuit.
Bah oui, quand
donc,
même.
L'idée, c'est d'isoler, de faire un peu d'isolation dans les box la nuit. Voilà.
Je crois que Rémi Gaillard a beaucoup souffert du froid. Il disait la nuit. Alors, il a souffert du froid et du fait aussi d'entendre les chiens aboyer tout le temps, tout le temps.
D'accord.
Oui, la nuit, c'est-à-dire que bon, comme on est en pleine campagne, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a d'humidité et le froid est quand même assez persistant. Et des fois, ça descend entre 3 et 2 degrés, ce qui est quand même très peu. Et donc, l'idée, c'est d'isoler le côté de nuit des box.
Oui.
Et puis, bon, je sais que Rémi a d'autres idées beaucoup plus grandioses pour notre structure, ce qui est super parce que Rémi a des grandes idées sur la protection animale et je pense qu'il va beaucoup faire avancer les choses à travers le refuge de Montpellier. Mais c'est aussi pour que tous les refuges de France puissent en bénéficier parce que la problématique des refuges, si vous voulez, c'est qu'ils ont souvent très peu d'argent.
Oui.
Ils sont pas très, très aidés par les pouvoirs publics et par l'État. Et donc, c'est vrai que Rémi veut faire bouger toutes ces frontières-là et moi, je pense que c'est très bien et surtout arrêter la problématique de l'abandon parce que c'est vraiment une plaie terrible qui engendre des souffrances énormes pour ces animaux qui sont abandonnés, que ce soit les chats, les chiens. C'est terrible ce qui se passe et c'est vrai que c'était un peu un silence latent. Lui, il a éclaté au grand jour cette problématique et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont été très sensibles à ça.
Alors, il paraît que depuis le changement de loi sur la vente des chats et des chiens, il y a eu un effet pervers avec une augmentation des abandons de chiots et de chatons. Est-ce que vous l'avez observé dans votre refuge?
Oui. Tout à fait. Cet été, on a eu 450 chats en 2 mois, donc ce qui nous est jamais arrivé.
450?
Alors, quand je dis des chats, oui, quand je dis des chats, c'est des jeunes chats, chatons et jeunes chats de moins d'un an. Et au niveau des chiens, on a trouvé des chiots dans des cartons, un nombre incalculable,
incroyable.
Avec des coups de chaleur, avec, la totale, on a eu vraiment, cet été, ça a été très difficile pour tous ces jeunes animaux. Et justement, nous, on pense effectivement que c'est une conséquence de cette loi qui est vraiment, au départ, c'était, je pense que c'était une bonne intention, mais.
Oui, c'est un effet pervers, parce que la bonne intention, c'était de dire, à partir du moment où vous vendez des chiots et des chatons qui ne sont pas de race, vous êtes considéré comme éleveur, donc vous devez vous enregistrer en tant qu'éleveur. Et ça s'appliquait à tous les particuliers pour éviter la vente sauvage sur les petits les sites de petites annonces. Voilà.
Parfait. Mais je pense que ce qu'il faut surtout insister, c'est sur la stérilisation. Parce que
bien
le problème
sûr.
Du particulier, si vous voulez, s'il stérilise pas son animal, de toute façon, l'animal, il va faire déporter. Et de nouveau, il va les abandonner dans la rue parce que de toute façon, il sera sanctionné. Il pourra pas les vendre. Donc, nous, on insiste beaucoup pour qu'il y ait une loi. Sur la stérilisation. Alors, comment l'impulser? Il faut surtout apprendre aux particuliers, effectivement, à ne pas faire d'anthropomorphisme. Une chienne n'a pas besoin de faire des petits pour se sentir bien.
Et c'est vrai.
Voilà. Et en France, on fait beaucoup trop d'anthropomorphisme. Et on pense pour les animaux. Et les animaux, ils n'ont pas besoin qu'on pense pour eux. Les animaux sont capables de manger tout seuls.
Il y a le côté latin aussi, hein, parce que dans les pays anglo-saxons,
c'est différent.
Voilà, la stérilisation est quelque chose qui est normal aux États-Unis comme en Angleterre, et ils ont un taux de stérilisation qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé qu'en France, qu'en Espagne, au Portugal ou en Italie. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ce côté latin aussi de pas...
Vous avez raison, parce que nous, vous voyez, à Montpellier, tous les animaux sortent stérilisés. Et les chiots, les chats, les chatons, on les stérilise le plus tôt possible dès que le vétérinaire donne le feu vert. Et bien, si vous saviez les réactions des gens quand on dit un mâle, hein, surtout les mâles,
oui,
qui sont stérilisés, vous savez, on a l'impression que ça choque, parce oui, qu'un mâle stérilisé, c'est pas possible, quoi. Et vous avez tout à fait raison.
C'est un ça, peu une mentalité, voilà, un peu macho, on va dire, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
Et c'est ça.
Et en plus, c'est une source de revenus. Et ça, si vous voulez, c'est pas possible que l'animal, l'être vivant, soit une source de revenus comme ça pour des particuliers, parce que un animal qui fait des portées sur portées, en plus, à qui donner ses animaux pour être malheureux, c'est pas la peine. Donc il est là le souci, c'est que l'animal est devenu une marchandise, si vous voulez. Et ça, c'est terrible.
Annie, merci.
Merci
pour ce témoignage.
Merci.
200 000 euros, vous rendez-vous compte? C'est incroyable.
C'est bien, mais écoutez, j'espère que vous allez pouvoir faire tous ces travaux dans votre refuge, pouvoir chauffer aussi les parties, la partie nuit des animaux, pour que qu'ils soient bien, quoi.
Et merci encore à Rémi Gaillard.
Et merci encore, voilà.
Voilà, c'est vraiment investi dans cette
dans
ce challenge.
Et puis
dans
c'est
cette
bien
aventure.
D'en parler avant Noël, parce que vous savez que beaucoup de personnes vont acheter des animaux, peut-être chiots, chatons, pour Noël, et pas penser à ces animaux qui nous attendent dans les refuges. Donc voilà, c'est une très bonne action pour les refuges.
Laetitia, il est 7h47. On va revenir dans un instant. Dernière ligne droite de notre rendez-vous animaux avant de retrouver la météo et les infos. On va découvrir une piscine un peu particulière parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il est impossible dans une piscine, on va dire traditionnelle, de se baigner à la fois à nous et avec notre animal.
Sauf si c'est notre piscine.
Alors, si c'est une piscine privée, bien sûr. Eh bien, ça change. Ça change. On va découvrir une piscine qui permet justement les humains et les chiens de se baigner ensemble. On en parle dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr, si vous voulez nous joindre. À tout de suite.
RMC, vos animaux. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et dans quelques instants aussi, nous retrouverons Laetitia, notre petite vidéo rigolote, notre vidéo lolcat de ce dimanche matin. Franchement, elle est très savoureuse. On en parle dans quelques instants. Vous allez pouvoir la retrouver sur la page Facebook de vos animaux en cliquant sur j'aime. Laetitia, on va découvrir une piscine qui n'est pas comme les autres.
Voilà, et nous sommes avec le docteur Anne-Christine François, qui est vétérinaire ostéopathe du Dog Center. Alors c'est quoi? C'est un centre d'éducation et de bien-être du chien à Charleroi. En Belgique.
En Belgique.
En Belgique. Cher consoeur, bonjour.
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 Alors, vous êtes vétérinaire ostéopathe dans un centre qui propose la Dog Pool. C'est une piscine pour chiens, mais aussi pour les maîtres. C'est quand même inédit en Belgique. Ça n'existe pas en France, en tout cas, je pense. Comment est née l'idée de mettre tout le monde à l'eau quelque part?
Eh bien, écoutez, ça a été très simple. On avait donc cette piscine qui au départ ne servait pas et en discutant avec mes collègues, je leur ai dit mais j'adorerais nager avec mon chien. Et tout simplement, l'idée est née comme ça de se dire et si on proposait ça aussi aux gens, c'est une bonne occasion aussi pour les propriétaires d'avoir une activité ludique avec leur chien et au Dog Center, on essaye en tout cas d'améliorer d'une façon ou d'une autre la relation qui est entre le propriétaire et le chien. Et donc la piscine, on s'est dit bah oui, on va la proposer aux gens.
Alors, est-ce qu'il y a des règles d'hygiène avant de plonger ?
Alors, effectivement, donc il y a une douche à disposition pour les propriétaires.
Oui.
Il y a aussi du matériel de toilettage professionnel pour que le chien soit rincé avant, lavé si nécessaire.
Oui, parce que s'il est sale, il peut pas rentrer dans la piscine, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, on veille à ce que le chien soit propre avant de rentrer.
Bien sûr.
Ben, les propriétaires aussi doivent être propres, donc il y a une douche, hein, comme dans un lieu public.
Bien souvent, oui, c'est le propriétaire qui n'est pas assez propre, hein, des fois.
Donc voilà, et après la piscine, après la séance, on invite les propriétaires à re-rincer le chien, et il y a tout le matériel qu'il faut pour le sécher. On demande aussi aux gens d'amener leur propre serviette pour essuyer le chien, comme ça, voilà, pour une question d'hygiène à nouveau, que ce soit leurs propres affaires qui soient utilisées.
Alors pourquoi nager avec son maître ne peut être que bénéfique pour le chien ?
Alors, premièrement, évidemment, les chiens adorent passer un moment avec leur maître. En plus de ça, ils ont tous besoin d'un minimum de dépenses physiques sur leur journée. Et donc, ça leur permet de partager un moment avec leur maître. Être dans l'eau, effectivement, ils pratiquent du sport sans que leurs articulations ne portent leur propre poids. Donc, c'est un sport, même si au niveau cardio, on va dire, c'est assez intense, au niveau articulation et musculaire, c'est plutôt doux.
Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on pense que le fait de nager, c'est instinctif chez le chien. Or, il y a des chiens qui ne savent pas nager, qui ne veulent pas nager, voire qui ont peur de l'eau. Et cette piscine leur permet justement d'apprendre à nager.
Alors effectivement, on a parmi nos chiens des chiens qui viennent pour enlever un petit peu cette peur de l'eau. Donc c'est très progressif, on prend vraiment le temps, voilà, on fait ça à notre aise. Pour ce faire et pour les aider, on a aussi des gilets de flottaison. Donc ce sont des gilets un petit peu comme des gilets de sauvetage pour les hommes, qui leur permettent de flotter sur l'eau, donc ils sont rassurés. Et on a aussi donc des colliers lunes qui leur permettent d'avoir bien la tête hors de l'eau. Et donc, nous accompagnons s'il le faut, si le maître le souhaite, on accompagne aussi dans l'eau pour les aider, hein, pour faire nager les chiens. Voilà, donc effectivement, c'est pas instinctif. On prend le temps, toujours évidemment dans un esprit de renforcement positif. On ne force jamais le chien à rester dans l'eau. Voilà, on essaye de faire ça pour un bien-être commun.
Oui, puis c'est mieux si le maître est déjà dans l'eau.
C'est beaucoup plus stimulant pour le chien nager avec une personne inconnue, une personne dog center. Les chiens, bien souvent, ils sont pas à leur aise, ils nous regardent pas. Vraiment, le mettre dans l'eau, ça peut tout changer. On l'a vraiment observé déjà quelques fois, d'avoir le propriétaire avec, ça change tout pour le chien.
D'un point de vue médical, on peut faire de l'hydrothérapie, donc c'est ce que vous faites aussi dans cette piscine. Quels sont les bienfaits de l'hydrothérapie chez le chien?
Alors, donc effectivement, au Dog Center, on propose de l'hydrothérapie ainsi que de la physiothérapie. Donc, c'est tout ce qui est rééducation fonctionnelle. Donc, les bienfaits, c'est tout simplement, voilà, effectivement, on va soigner des chiens après des opérations pour faire une rééducation, comme nous, on le ferait après une opération. C'est très bien aussi pour tous les chiens un petit peu obèses, pour qu'ils reprennent une activité sportive, on va dire cool, sans devoir justement porter leur propre poids. Et tous les chiens arthrosiques ou un peu plus âgés, pour leur permettre de garder un mouvement. En sentant moins la douleur en fait des articulations.
Mais oui, ça les remuscle de faire
un nageur. Anne-Christine, si je veux aller nager dans votre piscine avec mon chien, ça me coûte combien?
Alors pour la demi-heure, si vous êtes seule avec votre chien, c'est 25 euros. Donc vous privatisez l'endroit pendant une demi-heure, mais une demi-heure dans l'eau. Donc pendant un quart d'heure avant, un quart d'heure après, on est avec vous pour vous aider à le laver et puis ensuite à le sécher. Et donc pour tout ça, c'est 25 euros. Si vous venez avec un copain chien, pour votre chien à vous, vous êtes donc deux chiens, c'est 30 euros pour la demi-heure.
D'accord.
Et on peut venir à plusieurs amis quand même.
Alors vous pouvez venir à plusieurs. Alors évidemment, on ne sait pas accueillir des très très grands groupes.
Non,
évidemment, pour des grands chiens, on va dire comme du Bouvier Bernois, à deux dans l'eau, c'est bien. Mm-hmm. Si vous avez une petite bande de chihuahua à 10, on peut encore se sentir vraiment à l'aise.
Oh, Indy va être très contente. Ma chienne Indy, qui a un chihuahua, je vais inviter tous ses copains et on va aller à Charleroi. Mais bon, le problème, c'est un peu loin maintenant.
Merci beaucoup.
Il faut organiser un petit week-end, effectivement.
Merci,
Christine.
Merci, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Alors cette piscine, elle est en Belgique, à Charleroi, et j'espère que elle va inspirer d'autres centres de bien-être du chien
en
France.
C'est bien qu'il y en ait en France, en effet.
Oui, parce que bien souvent, il y a des piscines en France pour chiens, mais les maîtres ne peuvent pas rentrer dans la piscine.
Daniel est avec nous, Laetitia, pour terminer. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Bienvenue Daniel.
Bonjour Daniel.
Voilà mon problème, pourquoi je vous téléphone? Je pars le 26 à la Réunion avec mon cavalier King Charles.
Oui.
Donc, mon vétérinaire m'a donné pour décontracter du Silken.
Oui.
D'ailleurs, deux gélules par jour, pendant 8 jours.
Oui.
Et ensuite, il m'a dit, vous lui donnerez un cachet au moment de l'embarquement, c'est du Vétotinol Calmivette.
Oui.
Et j'ai vu sur Internet que c'était un médicament très dangereux, donc je voulais avoir votre avis.
Alors, c'est pas que ça soit très dangereux, le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de lui donner du Calmivette avant d'embarquer, parce que c'est un sédatif. Ah. Or, il y a maintenant, c'est marqué dans les règles pour Air France, etc., enfin les grandes compagnies, ils n'acceptent pas des animaux qui sont sous sédatifs.
Mmh.
Donc ça veut dire que s'ils voient que votre animal a l'air somnolent, voire...
S'il dort,
ils ne le prennent pas.
Même s'il est dans sa cage.
Mais
pourquoi
Parce que justement, on a eu des problèmes pendant les vols où l'animal, comme il était sous sédatif, il lui arrivait quelque chose et comme il y a personne pour intervenir puisqu'ils sont dans la soute.
Ils sont dans la soute, oui. Ça pose problème.
Donc, ça engage la responsabilité de la compagnie aérienne.
D'accord.
Donc, ils ont décidé et puis alors il y a même des compagnies qui décident, par exemple, qu'il n'y ait pas de chiens à bouille écrasée, vous savez, comme les bulldogs. En soute, qui interdisent ces chiens-là en soute.
Okay.
Voilà, il y a eu toute... Parce que suite à des accidents, justement, pendant des vols, ils ont changé leurs règles. Et Daniel, concernant votre chien, vous pouvez lui donner le Zilken, qui est un produit qui est un anxiolytique naturel. Il n'y a pas d'effet sédatif sur votre chien.
Ouais.
Le deuxième est interdit maintenant. C'est-à-dire que s'il y a une sédation chez votre chien ne sera pas accepté. Et c'est vrai que on peut penser aussi qu'un chien sous sédatif non surveillé, hein, parce que on peut donner un sédatif à un animal, mais il faut surveiller, bien sûr, l'animal.
Bien
on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Évidemment.
Donc ça peut être dangereux. Donc Daniel, donnez-lui le premier produit, qui est un anxiolytique naturel, qui n'aura pas du tout d'effet sur la conscience de votre chien. Il sera vaillant, normal, etc. Et il faut savoir aussi, Daniel, que dans la soute, bien souvent, les chiens, ils dorment parce que c'est noir, ils sont dans le noir, ils sont chauffés, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Et en plus, le bruit de l'avion, des moteurs de l'avion, ça les endort.
Ça les endort, tout simplement.
Voilà.
Très bien. Donc, pas de souci, Daniel. Merci en tout cas pour votre appel. Laetitia, on va se dire au revoir avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Et c'est un chat qui est complètement fasciné par un jeu tout bête. Est-ce qu'on explique le jeu ou est-ce qu'on invite nos auditeurs à aller voir sur la page
Facebook ? C'est un carton avec des trous et puis sous le carton, il y a une main avec des doigts.
Et voilà. Alors dit comme ça, on comprend pas trop, mais franchement, vous allez voir. Allez sur la page Facebook de vos animaux sur RMC, vous cliquez sur j'aime. Cette petite vidéo est très très drôle. Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, on sera là 6-8.
Oui, comme tous les dimanches, je vous souhaite un très très bon dimanche sous le vent peut-être pour la plupart d'entre vous. Une très bonne semaine et je vous embrasse.
À très vite. Et dans un instant, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint pour nos 2 heures dédiées à l'automobile avec vos questions auto au 32-16. À tout de suite après la météo, les infos.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre ? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.